Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, la première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène en Bolivie, là où est mort Che Guevara. Et la question 50 ans plus tard, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce village de la Higuera? Est-ce qu'on en fait un lieu de mémoire ou un spot touristique? On verra ça ensemble. Brexit saison 2, c'est le feuilleton du mardi avec Antoine Gignoux. Vous allez voir un petit chat dans la gorge aussi, Antoine. 18h55, l'édito d'Antonini Bélanger nous emmène aux Pays-Bas. Mais tout de suite, le nœud catalan, le nœud gordien qui sera bien compliqué à trancher, y compris dans le vif. On y va tout de suite.
Fabienne Saint-Es, un jour dans le monde.
No tenemos nada ni que ceder, ni que mediar, ni que negociar con golpistas. Está muy bien que el rey de España, Felipe VI, y que el presidente del gobierno ya hayan dicho que no hay nada que ceder ni que pactar con Puigdemont y con Junqueras, que son los golpistas de la Cataluña del siglo XXI.
Allez, celui que vous entendez s'appelle Pablo Casado, qui représente le Partido Popular, c'est celui de Mariano Rajoy. C'est tout chaud, ça vient d'être diffusé à la télévision espagnole, et en substance, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a rien à négocier en Catalogne, rien à négocier avec ceux qui ont fomenté un coup d'État. Et il rappelle aussi, dans le long de cette déclaration, il rappelle aussi la proclamation d'indépendance de 1934, où le leader indépendantiste a été tué ensuite par les franquistes. L'histoire, dit-il, n'a pas à se répéter. Voilà, c'est aussi violent que ça. Les socialistes, dans le même temps, demandent à Carles Puigdemont de tout arrêter. Une déclaration, des déclarations qui viennent au lendemain de cette grande manifestation anti-indépendance hier. Voilà l'impasse. Alors, impasse, je ne sais pas, peut-être que notre invité nous contredira sur ce thème-là. Et bonsoir, Louis Siak.
Bonsoir, très content d'être avec vous.
Merci, on est ravis, nous aussi, que vous soyez dans Un jour dans le monde, grâce à Catalunya Radio, d'ailleurs, qui nous prête l'un de ses studios. Et qu'on remercie Louis Siak, le musicien que vous êtes, évidemment, on le connaît très bien en France, vous êtes une incarnation catalane. Le politicien que vous êtes devenu, vous êtes élu à Gérone depuis 2015 pour le Parlement catalan, vous êtes une voix indépendante pour ce pays, donc pour le vôtre. Je parlais d'impasse tout à l'heure, est-ce que c'est le mot que vous emploieriez aussi? Je vais formuler même différemment, y a-t-il une autre issue qu'une déclaration d'indépendance demain, Louis Siak?
Écoutez, quand on écoute les déclarations de ce monsieur Casado, par exemple, qui appelle coup d'État à la volonté de botter des Catalans, c'est vraiment touchant, tu vois, parce que ce sont des néo-fascistes, néo-franquistes dans les pouvoirs et pratiquent ce néo-franquisme d'une façon sans honte, sans se cacher. Le problème, c'est que le Parlement catalan, il a une majorité avec un mandat démocratique très clair, c'est à voter l'indépendance. Nous avons tenté de négocier pendant 6 ans avec le gouvernement espagnol. Toujours, on a eu comme réponse la négative, avec ces tons que vous venez d'écouter. Et finalement, je crois que demain, le président va déclarer l'indépendance, peut-être conditionné à des possibles médiations.
Alors, conditionné à sinon, quoi? Qu'est-ce que vous pouvez entendre qui ne soit pas une déclaration pure et simple d'indépendance? Qu'est-ce que vous accepteriez d'entendre?
Non, s'il y aurait une médiation, on dit médiation en français, non?
Oui, on dit médiation.
Une médiation, voilà. Sérieuse, on pourrait peut-être parler, mais nous avons les mandats. Disons-nous que il y a une loi du référendum approuvée pour le Parlement qui dit que une fois connu le résultat effectif, 2 jours après, on doit déclarer l'indépendance. Et nous sommes là.
Mais une médiation. Non,
le président demain va se présenter au Parlement pour dire sa proposition. Et je crois que la déclaration d'indépendance est inévitable. Seulement, peut-être, on peut, je ne sais pas les mots conditionnés, non? La mettre.
Est-ce qu'on peut la graduer, par exemple?
Voilà, peut-être. Mais moi, je suis pas dans la cuspide du pouvoir pour vous raconter ça. Je sais pas.
Mais est-ce que ça satisferait les Catalans, une déclaration d'indépendance graduée? Quelque chose qui serait pas immédiatement un coup près?
En réalité, aux gens qui ont voté indépendantiste et que les dimanches passés, ils ont souffert les attaques de la police espagnole, je crois qu'ils ont sacrifié tellement pour pouvoir donner nuit au référendum, c'est difficile à avaler. Mais s'il y a une possibilité sérieuse, vraiment sérieuse, d'arriver à une médiation, alors peut-être on pourrait parler de ça.
Mais médiation, pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le médiateur au milieu. Qui peut faire le médiateur au milieu? Qui souhaiteriez-vous qu'il fasse le médiateur au milieu?
En réalité, les rôles devraient être acquis pour l'Europe, pour l'Union européenne. La Suisse a offert comme médiateur, et c'est bien parce que c'est un pays d'anciennes traditions, etc., etc. Mmh. Mais je crois que les conflits donnés dans l'Union européenne, ça devrait être l'Union européenne qui devrait prendre en charge ces médiations. Surtout parce que sinon, c'est difficile, avec les caractères, disons-nous, négatifs de l'État espagnol, sera difficile que ça soit accepté n'importe quelle médiation. Vous verrez ça dans les prochains jours.
Est-ce que ça vous choque pour l'instant que l'Union européenne n'ait pas dit grand-chose, ou quand certains ont parlé, ce n'était pas tellement en faveur des Catalans?
Écoutez, il y a des questions. Si on parle de l'opinion publique, je crois que ça a changé beaucoup dans les derniers mois. C'est vrai que...
Ah, j'espère qu'on n'a pas perdu... Ah, voilà. Pardon, allez-y Louis Siak, j'ai cru qu'on vous avait perdu. Allez-y, on vous écoute.
Non, je disais que l'opinion publique, je crois que maintenant elle est très touchée pour les cas catalans et qu'il y a une certaine sympathie à cet effort démocratique pour réaliser notre existence comme pays. Non, par contre, dans les mondes de la politique réaliste, c'est vrai que les États ne diront rien. Jusqu'au moment, ils décident de dire quelque chose. Et on se demande si, précisément, la déclaration d'indépendance, ça sera un sujet qui va obliger à l'Europe à se définir en paix ou va nous laisser en main de l'État espagnol. Je ne sais pas.
Si déclaration d'indépendance il risque d'y avoir, c'est presque automatique, c'est en tout cas ce que dit Madrid, il risque d'y avoir suspension de l'autonomie de la Catalogne. Comment réagiriez-vous dans ces cas-là, le fameux article 155 qui se mettrait en route? Comment réagiriez-vous dans ces cas-là? Est-ce que le fait d'accepter peut-être une forme de médiation sans une indépendance couperet dès demain, c'est aussi une manière de dire, pour l'instant, pas d'article 155, essayons d'en rester là pour l'instant?
Pour l'instant, oui, c'est une possibilité, mais surtout, je crois que les gens se sont rendus compte, et les États aussi le savent déjà, que toute cette opération catalane, disons-nous, c'est pas une conspirée dans un petit bureau de politiciens, sino que c'est une chose qui a sorti de la rue et qui a bouleversé tous les partis politiques de la Catalogne. Disons-nous que c'est un mouvement très, très, très populaire. Et notre utile pour lutter pour notre indépendance, c'est les gens précisément. Alors, s'il y a une suspension des autonomies, évidemment, les gens vont réagir de quelque façon. Ces gens que vous avez vus la semaine passée qui se laissaient donner coup de matraque pour pouvoir voter, ils vont réagir. Et tout ça va nous confronter à des réalités peut-être pénibles. Après, il y a des questions très importantes. Vous savez que la Catalogne, c'est une région économiquement très forte,
oui,
très puissante.
C'est même le nerf de la guerre.
Et voilà. Et il faudrait dire peut-être que l'Europe, elle sera plus sensible s'il voit que cette économie peut voler verser des statuts, statu quo que maintenant il est en place.
Alors ça voudrait dire du temps, en fait, Louis Siak. Si je vous comprends bien, ça voudrait dire du temps. Donc on déclare une forme d'indépendance qui n'est pas totalement tranchée, on va dire, et on laisse du temps à la Catalogne pour montrer qu'elle peut se débrouiller toute seule. Est-ce que c'est ce que vous dites en creux?
Je crois que c'est pas tellement ça. Je crois que je crois qu'on va donner un délai peut-être pas pour déclarer l'indépendance, sinon pour pas l'affaire effective. Et on va voir la réponse de l'État. Mais si la réponse de l'État, elle est celle qu'en ce moment on imagine, on sera obligé à réagir, ça c'est clair.
Alors,
Je crois que l'État, il est disposé à faire tout le possible pour que nous ayons les 155 et beaucoup plus. Hein.
Louis Siak, vous avez parlé tout à l'heure d'un mouvement très populaire. On a vu hier dans les rues de Barcelone que les anti-indépendances étaient aussi nombreux. C'est un pays qui est terriblement divisé que le vôtre. Est-ce que vous avez été un peu ébranlé quand même par la manifestation d'hier et par la cassure qu'elle dit aussi de la Catalogne?
Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en réalité, on sait, et on sait très bien, qu'il y a au moins un tiers de la population qui n'est pas tout à fait pour l'indépendance, qui est contraire à l'indépendance.
Seulement un tiers, selon vous.
Pour le moment, on dirait que, écoute, dans les parlements, ils sont représentés pour un 37%. Ça veut dire qu'un peu plus d'un tiers. Bon, les problèmes, c'est qu'on doit vivre en Catalogne selon la volonté de un peu plus de tierce ou selon la majorité. C'est pour ça qu'on voudrait faire un référendum, parce qu'on a un problème politique. Et on devrait résoudre avec une solution politique. L'État espagnol, il nous amène toujours en face d'un mur où il dit la Constitution ne permet pas, on va vous envoyer les corps juridiques, la police, etc. C'est ça, c'est un problème politique en réalité.
Alors vous dites un tiers, effectivement, d'autres disent 50%, des sondages disent encore différemment. Là où je vous rejoins, c'est que s'il y avait référendum, ben, les gens auraient pu se compter. Je voudrais quand même vous mettre dans l'oreille, Louis Siak, ça ne va pas vous faire plaisir, j'imagine, ce que disait Mario Vargas Llosa hier en tribune, et je voudrais que vous réagissiez à ce qu'il disait, écoutez-le.
Pero la pasión puede ser también destructiva y feroz cuando la mueven el fanatismo y el racismo. La peor de todas, la que ha causado más estragos en la historia, es la pasión nacionalista.
Alors, je vais traduire, bien sûr, ce que dit Mario Vargas Llosa. Il dit « La passion peut aussi être parfois destructrice et féroce quand l'anime le racisme et le fanatisme. La pire de toutes, celle qui a causé le plus de ravages, c'est la passion nationaliste. » Louis Siak, est-ce que ça vous fait pas mal d'entendre des choses pareilles ?
Laissez-moi vous dire. Je respecte beaucoup les qualités littéraires de M. Vargas Llosa, mais il est un fanatique, il est un passionné et il est un grand nationaliste. Alors, en plus, je crois que dans la petite histoire du mouvement catalan, c'est quelque chose qu'on a démontré pendant ces 6 années, c'est qu'on a sorti des millions de personnes dans la rue, toujours dans les pacifismes les plus stricts. Il est un mouvement d'une transversalité sociale, politique. Dans les indépendantistes, on va de l'extrême gauche à la droite droitière. On peut pas parler de nous comme des fanatiques. Et en plus, on aime beaucoup parler du mot nationalisme, mais notre nationalisme, ça n'a rien à voir avec les connotations de ces mots quand on applique au nationalisme européen. Nous avons un nationalisme de défense vers un nationalisme espagnol qui est agressif depuis toujours. Alors, il est très bien comme intellectuel, mais fanatique, passionné, on le connaît bien, M. Vargas Llosa, et en plus, nationaliste récalcitrant.
En tout cas, Louis Siak, on suivra évidemment tout ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'impatience, ce qui se passera. On a entendu que, éventuellement, si une médiation européenne pouvait arriver, eh bien, vous l'accueilleriez, en tout cas, vous l'accueilleriez, justement, et que peut-être vous en avez besoin. On verra ça ensemble demain. Merci mille fois, Louis Siak, c'était un plaisir de vous avoir dans Un jour dans le monde.
Merci à vous pour l'intérêt. Merci beaucoup.
À très bientôt.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde en Bolivie, là où le Che est mort, figurez-vous. Le feuilleton Brexit saison 2, Antoine Gignon, on tousse beaucoup chez vous visiblement, non?
On s'étrangle aussi, on parle évidemment de grippe politique tout à l'heure. On tousse, on suffoque, on avale de travers.
Ah bah je vois ça, moi, oui, je vois bien. Allez, buvez un coup avant de revenir, vous en avez pour une petite dizaine de minutes. L'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, 18h55.
Et moi je vais vous parler de Pays-Bas. 208 jours pour former un gouvernement, record battu chez les Bataves.
Allez, à tout de suite, Queen of the Stone Age, tout de suite. The way you used to do.
Whoa!
to do.
Queen of the Stone Age sur France Inter, The Way You Used to Do. Power Hit Radio.
Magica Fan. Terra della Tula. Desservi per il fuoco. 60 Minutes.
Sous les radars, il y a toujours de la place pour Florence Paracolos qui se faufile dans l'actualité internationale. Qui vous a échappé, Florence, ce soir? On commence en Pologne et ces manifestations de catholiques partout dans le pays ce week-end.
Opération Rosaire aux frontières. Objectif, prier pour sauver la Pologne et le monde. Ils étaient des milliers sur les plages de la mer Baltique et le long des 3500 km de frontière qui séparent la Pologne de l'Allemagne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Ukraine, ou comme ici, sur une route forestière en face du Bélarus. Des prières purement religieuse pour l'épiscopat, sauf que la date du 7 octobre n'a pas été choisie au hasard. C'est la fête du rosaire de la Vierge Marie qui commémore la victoire de la chrétienté sur les Turcs en 1571 lors de la bataille navale de Lépante. Donc, du coup, l'opération a clairement tourné au rempart contre l'islamisation de la Pologne. L'archevêque de Cracovie a déclaré qu'il priait pour que les nations européennes comprennent qu'il faut retourner aux racines chrétiennes de l'Europe. Et l'AFP, qui a interrogé des manifestants, a recueilli ce type de réflexion. L'Europe n'est plus chrétienne, la France est à moitié musulmane, ou encore, je ne connais pas les musulmans, mais il ne faut pas les laisser rentrer chez nous.
Voilà.
Effectivement, selon le Pew Research Center, seul 0,1% de la population polonaise se déclarait musulmane en 2011. Ça fait à peu près 20 000 personnes. La grande peur des Polonais d'aujourd'hui, ce sont les migrants que le gouvernement, de toute façon le gouvernement conservateur nationaliste, refuse catégoriquement d'accueillir.
Allez, direction l'Égypte maintenant, Florence, pour ce moment de télévision.
Nous sommes sur une télé privée par satellite. Il y a quelques jours, la femme qui parle à l'écran, la présentatrice d'un talk show, apparaît le visage tuméfié dans cette vidéo mise en ligne par Al Arabiya parce que, dit-elle, elle a été battue par son mari, qu'elle a bien pensé annuler son émission, mais qu'elle a jugé utile de se montrer comme ça pour dénoncer les violences domestiques. Il faut se lever contre cette violence. J'encourage les autres femmes qui sont également des victimes à se lever. Long plaidoyer pour la cause des femmes. Et puis c'est la pub. Au retour sur le plateau, la même présentatrice, sans les marques au visage, elle explique que c'était du maquillage et qu'elle a fait ça pour inciter les femmes à parler. Alors on pensera ce qu'on veut de cette méthode,
oui.
Mais le résultat, c'est qu'on en parle, qu'on rappelle que en Égypte, presque la moitié des femmes disent subir des violences dans leur foyer, qu'il existe encore ce qu'on appelle la loi d'obéissance. Un homme peut porter plainte contre sa femme si elle quitte le domicile sans prévenir, et que les féministes militantes sont harcelées par le régime du maréchal Sissi. Deux d'entre elles ont vu leurs avoirs gelés cette année pour avoir parlé un peu trop fort.
Florence, des nouvelles de Corée du Nord peut-être? Ah oui, on y est là.
Alors que les analystes attendent un probable nouveau tir de missile balistique demain pour l'anniversaire du Parti des Travailleurs de Corée, la lignée des Kim se renforce. Je vous ai mis effectivement un peu de musique du dernier défilé militaire de Pyongyang pour vous mettre dans l'ambiance.
Oui. Alors voyez donc, s'il y a beaucoup de rock'n'roll à Pyongyang.
Vous voyez donc, il y a un monsieur qui va crier tout à l'heure. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais c'est toujours assez folklorique.
Allez-y.
Voyez donc Kim Yo-jong, petite sœur du leader Kim Jong-un. Elle vient d'être nommée.
Ah, ça y est, le monsieur a crié.
Ah, le monsieur crie. Voilà, les autres crient là.
Oh, mais ils sont nombreux à crier.
Oui,
quand même.
Oui, oui. C'est vrai. Hélas, on fait toujours du folklore hein, quand on parle de la Corée terrible. Du Nord, mais bon. Donc Kim Yo-jong, petite sœur du leader Kim Jong-un, elle vient d'être nommée au Politburo du parti. Elle s'occupait jusque-là de la propagande et notamment de l'image de son frère. La voilà qui remplace sa tante au bureau politique, la tante qu'on n'a plus vue depuis 2013 et pour cause depuis l'exécution de son mari, le tonton du dictateur. La sœur a également plus de chances que son demi-frère, Kim Jong-nam, assassiné en février dernier à l'aéroport de Kuala Lumpur, vous vous en souvenez, oui. Coup de poison neurotoxique. Bref, au jeu des sept familles, la famille des Kim n'est plus au complet, mais on pourra toujours demander la sœur, à moins qu'une purge future...
Bon. Ben, on n'est pas sûr d'avoir envie d'être à la place de la sœur.
Ni de jouer au jeu des sept familles.
Non plus. Allez, Florence Paracoulos, à demain.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes en Bolivie.
Comme a dit Fidel Castro, tras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes.
Allez, on la connaît peu, cette voix. Vous avez peut-être perçu quelque part, comme le disait Fidel Castro, le visage, pour le coup, ne vous est pas inconnu. Il est encore sur des t-shirts et des posters aujourd'hui comme une figure romantique de la révolution. 50 ans après la mort d'Ernesto Che Guevara, 50 ans tout rond. Je vous emmène là où le Che est mort, en Bolivie, alors qu'il tentait en vain d'exporter la révolution cubaine dans toute l'Amérique latine. Et c'est de là, de cette époque, que vient cette chanson que forcément vous connaissez.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia.
Voilà, vous le connaissez forcément, peut-être que l'histoire aussi vous est familière. Capturé par les guérilleros le 8 octobre 67, il est exécuté tout de suite le lendemain, le 9, et la dictature militaire bolivarienne fera tout pour cacher son corps. Finalement, 30 ans plus tard, ce corps est retrouvé par une mission cubaine, tout près du village de la Higuera, et c'est de là qu'il sera transporté ensuite à Cuba. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage à la Higuera ? Eh bien, vous allez voir que c'est pas si simple. Bonsoir, Romane Frachon.
Bonsoir.
Vous revenez de Valle Grande, juste à côté de la Higuera, où le Che a une image, Romane, plutôt négative, que la Bolivie d'ailleurs essaie de changer depuis, disons, une petite dizaine d'années.
En 2005, à l'élection d'Evo Morales à la tête du pays, son gouvernement commence à récupérer l'image révolutionnaire du Che Guevara. Développement du tourisme, construction d'un musée, création d'une fondation, ouverture d'une école nommée Che et commémoration chaque année le 9 octobre.
Et tout ça donc, Romane, n'est pas sans arrière-pensée. De quoi s'agit-il exactement ? Vous nous y emmenez ?
C'est un événement culturel, artistique et bien sûr idéologique. La ministre de la Culture, Wilma Lanoca, a fait le déplacement pour cet anniversaire. Pour elle, l'événement cherche avant tout à informer sur l'histoire du guerriero et sur son intention.
Qu'ils comprennent pourquoi le Che est venu en combattant ici, pour quels idéaux, pourquoi la révolution cubaine, pourquoi Cuba représente une puissance éducative et culturelle qui génère une sorte de bouclier anti-interventionnisme. Nous sommes tous le Che à travers une action, une façon de penser le monde, à commencer par les personnes les plus modestes. C'est ça être le Che.
L'objectif pour les organisateurs, c'est bien sûr de faire appliquer ses idées. Anastasio Fuller est à l'initiative de l'événement. Il est allemand, président de la fondation Che Guevara. C'est en 1973, dans une prison du Paraguay, alors également soumis à une dictature militaire, qu'il s'intéresse à l'histoire d'Ernesto Guevara.
Espero que ahora, con el evento,
j'attends de cet événement qu'il permette de créer une conscience et faciliter l'accès à du matériel authentique sur le Che pour en apprendre plus sur son modèle de l'homme nouveau et comment suivre son exemple aujourd'hui. On est bien conscient que le tourisme à Valle Grande, c'est le Che.
Ce discours politique contraste avec celui de la population. À Valle Grande, la plupart des habitants considèrent encore le Che Guevara comme un ennemi de la nation. De génération en génération, il raconte qu'un terroriste est venu pour imposer le communisme en Bolivie. Et conséquence ou non, lors des élections, la commune vote majoritairement à droite. Alors quand le gouvernement veut sensibiliser les locaux aux idées guévaristes, nombreux sont ceux qui boycottent. Et la Maria est institutrice.
Il y a un collège que le gouvernement national a construit, qui s'appelle Ernesto Che Guevara, justement.
L'année dernière, ils ont dit qu'ils allaient y inculquer les théories socialistes. Vous imaginez, plusieurs parents s'y sont opposés. Ils ont menacé de retirer leurs enfants du collège et de le vider de ses élèves si ça arrive. Tout ça pour le rejet systématique qu'il y a du Che ici à Vallegrande.
Quand on exécute le Che Guevara en 1967, les Boliviens ne donnent pas leur opinion. Le sujet est tabou. En plein plan Condor, la dictature militaire sème la terreur dans les campagnes. Ce n'est que 30 ans plus tard, quand on retrouve le corps du Che Guevara, que les vallégrandistes commencent tout juste à parler du sujet. Léo Calderón, directeur de la Maison de la Culture de Valle Grande, s'est passionné pour l'histoire d'Ernesto Che Guevara. Il relève le caractère extrême des avis sur l'Argentin, ou détesté ou adulé. Et pas seulement le 9 octobre.
Il y a d'autres dates marquantes, comme le jour de son anniversaire, le 14 juin, comme pour un saint. Certaines personnes fanatiques allument une bougie devant un poster, mettent une photo sur la table de nuit, avec parfois une citation du Che. C'est aussi normal à l'église d'écouter le prêtre demander une prière pour l'âme d'Ernesto Che Guevara.
Carlos Coronado avait 14 ans quand ils ont capturé le Che Guevara dans la petite école en face de sa maison. De petite taille, l'air tranquille, il ne se lasse pas de raconter l'histoire de sa capture. Et sa surprise quand, des mois après sa mort, on encercle son village de militaires américains.
On racontait qu'après la fin de la guérilla, on allait nous lancer une bombe. Qu'un avion de Fidel Castro ou de l'URSS allait venir venger sa mort. Les gens ont eu peur et sont presque tous partis. On est peu à être restés.
Comme si c'était hier, il se souvient de l'hélicoptère venu chercher son corps maigre et abîmé. Mais impossible de savoir ce qu'il a pensé à ce moment-là. Pour lui, le Che, c'est bon pour le commerce.
La venue du Che ici est très importante pour la Higuera. Il a tout amélioré ici. Depuis qu'il est passé par là, on a des routes, des touristes, on a l'eau courante, on a même des médecins cubains.
Avec sa femme, il vit désormais d'un modeste hostel pour les touristes. Emmanuel Lopez, un Français entraîneur de football à Doha, y loue une chambre. La commercialisation de l'image du Che, le développement du tourisme, lui, il est pour.
Est-ce que c'est pas le prix à payer pour que ces idées perdurent? Ça devient un pèlerinage quelque part de venir ici, donc... J'en veux absolument pas à la modeste population locale de peut-être vendre un peu ces lieux à partir du moment où j'ai pas l'impression que ça va à l'inverse de ces idées au bout du compte.
C'est loin d'être l'avis de Christian, Marseillais, propriétaire du café Les Amis du Che à La Higuera.
Pour moi, c'est très bien que la route soit accidentée comme ça, que ça reste un chemin de terre. Parce que si c'était asphalté, justement, on aurait des bus qui viendraient tous les jours avec 50 personnes. Et peut-être que d'ici un an, on aura un McDonald's alors. Donc c'est vraiment pas le truc. C'est quasiment l'authentique de ce qu'il y avait avant, quoi. Ça n'a pas bien changé, quoi.
Authentique ou pas, aujourd'hui, La Higuera appartient aux leaders de la gauche latino-américaine et leurs militants.
Voilà, trouver un Marseillais dans le café des Amis du Che quand même. Est-ce que c'est pas formidable? Roman Frachon en Bolivie, merci pour ce petit tour. Dans Un jour dans le monde, on reste dans l'ambiance, pas l'ambiance marseillaise, hein. L'autre, Gilles Peterson, Havana Club, por un milagro.
Libre, no depende de él. Y que tienes el
Gilles Peterson's Havana Cultura por un Milagro sur France Inter.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Saint-Es.
This is an historic moment.
Un jour dans le monde.
L'actu en série le lundi, c'est le Brexit saison 2. Antoine Gignot, rebonsoir. Antoine, dans un des précédents épisodes du Brexit, le Royaume-Uni n'était pas très en forme. Depuis, ça va pas beaucoup mieux. D'ailleurs, Antoine, je vous trouve une petite mine à vous aussi.
Absolument, oui. Mais j'essaye de passer à travers l'épidémie de tout. On tousse ici, on suffoque, on avale de travers. Épidémie, cet après-midi d'ailleurs, de hurlements, de voix cassées au Parlement. Les députés parlaient du Brexit. Il y a eu plusieurs interruptions dans les discours, notamment celui de Jeremy Corbyn, le leader de la gauche. Et puis, il faut bien le dire, cette épidémie, elle a commencé la semaine dernière avec Theresa May. Vous l'avez vu, Fabienne, la photo de la Première Ministre pendant le discours de clôture du Congrès des conservateurs. Grosse quinte de tout, 45 minutes de larmes dans les yeux, des phrases à peine compréhensibles, catastrophe totale. Mais en fait, l'état de santé de la Première Ministre, c'est un petit peu la même chose que l'état de santé du parti conservateur. Un peu malade, un peu grippé, un peu coincé. On le voit d'ailleurs dans les sondages pour la première fois, un électeur de droite sur deux reconnaît qu'il y a des divisions profondes au sein de la droite. Allez voir, si vous voulez, la une du Télégraphe cet après-midi, qui est pourtant le quotidien de droite. Mm-hmm. Il y a en une un dessin du 10 Downing Street, avec sur la porte le chiffre 1 du 10 qui est en train de se détacher, oui, comme s'étaient détachées les lettres du slogan des conservateurs il y a quelques jours, en plein milieu justement du discours de Theresa May. Ça donne 0 Downing Street comme adresse postale. Ça fait tout de suite beaucoup moins sérieux.
Mais pourtant, si je ne m'abuse, et à moins qu'il soit passé quelque chose dans les minutes qui viennent de s'écouler, là, elle est toujours là, Theresa May, Antoine.
Elle est toujours là, elle est toujours au Parlement, elle est toujours à la tribune. Enfin, ce qu'il reste de Theresa May, parce que malgré la tentative de putsch, 30 députés conservateurs ont signé une lettre pour demander à la Première Ministre de partir. Elle est toujours là, oui, il en faudrait 48 pour qu'elle s'en aille. Le souci, en fait, c'est qu'il n'y a personne à mettre à sa place. Du coup, la guérison pourrait passer par un shake-up, pas un check-up hein, comme chez le médecin, mais un shake-up, d'accord, un remaniement, peut-être en
donc,
éliminant
Boris Johnson. Donc, vous parlez de secouer,
Johnson. C'est ça? Ah, c'est ça, il faut secouer. Et puis voir ce qui ressort du parti conservateur, et notamment peut-être Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères. Il pourrait aussi y avoir un remaniement avec des jeunes qui entrent au gouvernement, enfin des jeunes à l'échelle des conservateurs, ce sont des parlementaires de moins de 50 ans, mais ça n'aura pas lieu de toute façon tant que les négociations sur le Brexit n'ont pas avancé, et donc pas avant le mois prochain.
Et oui, parce que Antoine, pour l'instant, on tousse aussi quand même à Bruxelles, apparemment.
Absolument, mais là c'est pas le même bruit, un peu plus mécontent quoi. La toux de Jean-Claude Juncker, c'était cet après-midi, président de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker s'étonne des propos de Theresa May, la première ministre, dans un discours a dit la balle est dans le camp de l'Union. Autrement dit, nous avons fait assez d'efforts, passons à la phase de négociation sur les accords commerciaux. Bruxelles répond donc sur ce ton un peu sec, la balle est totalement chez les Britanniques. Autrement dit, tant qu'on ne se met pas d'accord sur la facture que le Royaume-Uni doit payer pour sortir de l'Union, on ne parlera pas d'autre chose.
Voilà, si j'ai bien compris. Et à force de se renvoyer la balle, on va finir par arriver à la mi-temps, et pour l'instant c'est zéro partout, hein, la balle au centre.
Zéro progrès, zéro avancée, ça c'est ce qui fait plutôt tousser les financiers ici. Pour la première fois, le responsable du groupe bancaire RBS, la Royal Bank of Scotland, vient de le dire ouvertement, s'il n'y a pas d'accord dans les 6 mois qui viennent, il délocalise purement et simplement une partie de ses effectifs, il installe ses bureaux dans d'autres pays d'Europe, et il n'est pas le seul. Ce matin, dans les bureaux du secrétaire d'État au commerce, il y avait des représentants d'HSBC, Morgan Stanley, Vodafone, Aston Martin, Nestlé, tous veulent demander des comptes, et dans le même temps, des avocats accusent le gouvernement de détenir des documents secrets, des documents qui auraient été rédigés par des spécialistes du droit européen et qui prouveraient qu'il est possible d'annuler le Brexit jusqu'au mois de mars 2019, affirment ces experts. Il serait donc possible de faire machine arrière. Quand on demande des commentaires à Theresa May, vous imaginez la réponse?
Voilà.
En tous.
Voilà, on a bien compris. On parle bien de Theresa May, vous et moi. Theresa May Day, même, comme disait un journal il n'y a pas si longtemps. Un dernier petit hoquet pour finir, Antoine, peut-être, celui de Nigel Farage.
Ah oui, l'ancien chef de file du UKIP, le parti d'extrême droite. Nigel Farage, député européen, populiste, anti-Bruxelles, anti-système, l'homme qui a milité contre le Brexit. Deux infos. La première, il va devoir rembourser 500 000 euros au Parlement européen parce qu'il a utilisé les fonds européens pour financer justement cette campagne pro-Brexit. La deuxième, comme il était trop occupé par la campagne pro-Brexit, il a tout simplement oublié de remplir les formulaires pour demander de nouvelles subventions pour le parti UKIP l'an prochain. On résume, l'extrême droite britannique n'a plus une livre en poche. Ça aussi, ça va faire tousser un petit peu.
Ah ben, sévèrement. Antoine Gignot, éloignez-vous des courants d'air et à la semaine prochaine. Allez, 18h54, allez, sur France Inter, l'édito d'Un jour dans le monde, signé Anthony Bélanger. Anthony, on a commencé Un jour dans le monde avec des Espagnols qui ont le plus grand mal à s'entendre et à négocier. On termine par un pays qui finalement se met d'accord. Profitons-en, ça a été long, il a fallu 208 jours pour former le gouvernement, c'est le record ou pas ?
Et oui, c'est le record, on va le voir d'ailleurs. Après 7 mois après la législative du 15 mars, le Premier ministre Mark Rutte peut sabler le champagne, ou plutôt la grulche, c'est une bière locale, et fêter cette union à 4 partis et une toute petite voix de majorité au Parlement. 208 jours, ce n'est pas qu'un n'importe quel chiffre aux Pays-Bas. Le record absolu de négociation pour former un gouvernement était de 207 jours ah, et remontait.
Ils l'ont fait exprès du coup, de faire un jour de plus.
Sûr. Ça remontait à 1977, 40 ans. Il faut dire que la pression donc était évidemment maximum hein, pour ne pas trop battre ce record absolu. Reste que les Néerlandais n'ont pas perdu pour autant leur sang-froid légendaire et pour une bonne raison. En moyenne, lissés sur 70 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il faut aux Pays-Bas 87,6 jours pour former une coalition gouvernementale. Donc, ils sont habitués. Et puis, on est loin, très loin du record mondial et absolu.
C'est ça,
541 jours en 2010, souvenez-vous, pour que les ministres belges finissent par prêter serment devant leur roi.
Je me disais bien que les Belges avaient été nettement meilleurs. On peut quand même se demander ce qui a pris autant de temps.
Ben c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué à ce genre de délai en France. Hein. Nous, on élit un président début mai, hein. Il entre en fonction une semaine plus tard, il met une petite semaine de plus pour se choisir un gouvernement et hop, tout le monde au boulot. Souvenez-vous des commentaires acides lorsque la formation gouvernement d'Édouard Philippe I avait pris 24 heures de retard. Impréparation, amateurisme, incompétence. Alors imaginez 208 jours de palabres pour arriver au même résultat. Seulement voilà. Le troisième mandat de Mark Rutte repose sur une équation impossible à résoudre en France. Elle consiste à marier des conservateurs avec des progressistes et deux partis d'inspiration chrétienne, un véritable rébus. Pour vous donner un exemple, les progressistes du D66 sont pour l'avortement, pour l'Europe, pour les droits des gays et des lesbiennes et veulent élargir les possibilités du recours à l'euthanasie. L'Union chrétienne, un des quatre donc, est contre tout cela et eurosceptique en plus.
Eh ben, j'imagine qu'en plus ce gouvernement sera paritaire.
Ben, ils n'en feront tout de même pas faire moins bien que la Suède, la Finlande et la France, qui respectent scrupuleusement le 50-50. D'ailleurs, juste une petite remarque, cette obsession du 50-50 est encore un peu trop machiste à mon goût.
Allons bon.
Ça m'amuserait de voir un gouvernement tenter le 60% femmes et 40% hommes, voire plus. Est-ce que les hommes politiques oseraient se rebeller? Et puis après tout, les femmes représentent 60% des étudiantes de ce pays, alors pourquoi pas 60% des ministres? Mais passons.
Oui.
Aux Pays-Bas, comme en Allemagne, et d'ailleurs dans la plupart des démocraties parlementaires, ce temps passer à négocier un contrat de gouvernement est la règle, tout bêtement. Autrement dit, dans ces pays, les politiques pensent sincèrement représenter leurs électeurs et leur programme les engage. Ils acceptent d'entrer dans une coalition s'ils n'y perdent pas trop leur âme, ils n'en ont qu'une. Les Verts néerlandais ont par exemple absolument refusé sur la question de l'immigration.
Ce que vous voulez dire, j'étais en train de penser aux âmes diverses et variées, ce que vous voulez dire c'est qu'ils font de la politique sérieusement.
Et qu'ils appliquent le programme pour lequel ils ont été élus. À l'issue de ces interminables négociations, un programme de gouvernement pour les 4 années suivantes est d'ailleurs édité. Il fait souvent plusieurs centaines de pages. Même l'Italie et l'Espagne, autre démocratie parlementaire, utilisent le même genre de rituel, moins contraignant tout de même, qu'en pays protestant où les pactes doivent être scrupuleusement respectés, pacta sunt servanda. Il n'y a en fait qu'en France, où un président peut être élu sur un programme et faire tout autre chose, où un parti choisir un candidat et un programme et tout jeter aux orties sitôt l'élection perdue. Nous sommes l'exception, ils sont la règle.
Merci beaucoup Anthony Bélanger. Le 18-20 continue sur France Inter avec le téléphone sonne, à tout de suite.